Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et il vient de nous rejoindre sur notre plateau juste après la plénière à laquelle il a participé, Cédric Versiglio, directeur des relations internationales pour Aropaport. Bonjour, merci d'être avec nous. Aropaport, le premier ensemble portuaire français, l'un des principaux hubs logistiques européens reliant les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Aropaport constitue une porte d'entrée stratégique pour le commerce international et joue un rôle majeur dans le développement du transport multimodal et de la logistique décarbonée. Vous êtes Cédric, directeur des relations internationales européennes et de la prospective. Vous travaillez sur les enjeux de compétitivité, d'innovation, de transition écologique et d'intégration des infrastructures portuaires dans les grands corridors européens de transport. Vous avez participé, je le disais, à une plénière intitulée « Better, Faster, Cleaner ». Pourquoi les colis voyagent-ils plus efficacement que les personnes ? Qu'est-ce que la mobilité des personnes peut apprendre aujourd'hui de la performance logistique du transport de marchandises ? Cédric.
Donc, merci pour cette question. C'est vraiment un sujet clé. En fait, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui réellement, et surtout en Europe, les gens voyagent très bien aussi. Hein. Déjà quand même sur un niveau assez élevé. Après, la logistique, ça impose un niveau de détail dû à la massification et à l'interconnexion des modes de transport, peut-être un peu plus développé, et avec des enjeux financiers supérieurs, donc peut-être avec un effort supplémentaire en termes de connectique, de partage de données, pour faire en sorte que le conteneur qui va quitter Shanghai, qui va arriver au Havre, qui va passer d'abord peut-être sur un camion, puis sur une barge et ensuite sur un train, arrive au final dans l'entrepôt pour être livré avec une camionnette à la fin. Donc ça, c'est vraiment comme un orchestre, en fait. Il y a un chef d'orchestre qui est là, c'est le logisticien, et il y a, je dirais, les différents musiciens qui vont être les différents acteurs de la chaîne logistique, donc les ports et tous les opérateurs de transport qui vont devoir se mettre d'accord pour que le colis ou le conteneur arrive au bon moment, au bon endroit.
Longtemps perçus comme de simples lieux de transit, les ports apparaissent désormais comme des plateformes énergétiques et logistiques majeures. Quel rôle Aropaport entend-il jouer dans la décarbonation des transports en Europe ?
La décarbonation, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de notre projet stratégique. C'est même quelque part l'ADN d'Aropaport. On a fusionné en 2021 les ports du Havre, de Rouen et de Paris. L'idée, c'était de se servir de la Seine comme fédérateur. Parce que la Seine relie les trois ports. Et notre objectif, c'est de pouvoir mettre de plus en plus de marchandises sur la Seine. Donc, et tout ça commence au Havre, en créant des infrastructures qui vont permettre, par exemple, aux barges d'entrer directement dans les terminaux conteneurs maritimes. C'est ce qu'on appelle la chatière, dans le petit jargon havrais, qui est en fait une digue qui va protéger les unités fluviales pour arriver sur les terminaux conteneurs, pour être chargées plus rapidement et repartir. Cette même barge, ensuite, 24 heures plus tard, on va la retrouver à Gennevilliers, et elle aura transporté 250 conteneurs. Donc même si on part à isotechnologie, c'est-à-dire plutôt sur du diesel, à cause de la massification, on enlève déjà 250 camions de la route, et on a un volume de transport fiable, parce qu'il n'y a pas de problème de congestion. On a installé des bornes électriques le long de la Seine demain pour pouvoir recharger les barges. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un des atouts principaux d'Aropaport.
On parle beaucoup depuis des années de développer davantage le fret fluvial et ferroviaire. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une véritable accélération des flux multimodaux, ou est-ce qu'il existe encore des freins importants à lever ?
Il existe des freins. Oui. Accélération, ce serait peut-être fort, mais on va dire un frémissement. D'accord. Parce qu'il est réel, il est tangible, on le mesure chaque année dans nos chiffres. Aropaport, en part modèle, c'est 80% de camions encore. Après, on a 20% entre le rail et le fleuve. Le fleuve a une marge de manœuvre énorme, parce qu'on estime qu'on peut multiplier par 6 le trafic sur la Seine aujourd'hui.
D'accord.
Les infrastructures sont là, elles existent. On a toutes les plateformes multimodales entre le Havre, Rouen et Paris pour faire de la logistique dernier kilomètre et du fluvial. Là, on va beaucoup travailler, c'est le ferroviaire. Donc on a quelques succès, il y a une nouvelle plateforme qui va ouvrir du côté d'Orléans, où on va passer du flux camion sur du rail, mais on a un réseau français qui est construit autour de Paris, la fameuse étoile parisienne, et donc là le fret, il est en compétition avec les TGV, les RER, les intercités, et forcément c'est compliqué de faire passer un train de fret, qui en plus roule la nuit et fait du bruit, donc il y a un petit problème aussi d'acceptabilité. Mais néanmoins on y travaille, il y a différentes solutions, et ça va être par la réactivation de chantiers de transport multimodaux qu'on a un petit peu abandonné dans les années 60 parce qu'on était sur une politique du tout camion. Donc on va réussir à relancer le rail en France pour le fret également.
Alors justement, les entreprises demandent des chaînes logistiques toujours plus rapides et performantes. Comment parvenir à réduire fortement les émissions de CO2 sans dégrader la qualité de service ni augmenter excessivement les coûts?
Ben, verdir, ça ne veut pas dire dégrader la qualité de service. Hein. Encore une fois, ce qu'on fait aujourd'hui sur la barge, et l'augmentation des trafics le prouve, c'est que plus en plus de logisticiens proposent ce service à leurs clients. Les utilisateurs finaux, donc nous-mêmes, on les utilise aussi. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Le vrai sujet, vous l'avez mentionné, c'est le prix.
Ouais.
Comment aujourd'hui, sur la massification rail ou fleuve, on arrive à faire baisser le coût? Ben, tout simplement en limitant, par exemple, le nombre de mouvements, parce que dès qu'on touche un conteneur, il y a un tarif qui va s'appliquer. Avec ce qu'on fait au Havre avec la Châtière, par exemple, ça va limiter les mouvements entre le maritime et la barge. Donc on se rapproche de ça. Et après, il y a toutes les politiques publiques qui peuvent mettre en place aussi, qui vont venir aider les modes massifiés pour amener à iso-coût par rapport aux camions.
Vous êtes également, Cédric, en charge des relations européennes et de la prospective. Face à la concurrence des grands hubs mondiaux, quels sont selon vous les atouts de l'Europe et de l'axe Seine pour devenir une référence de la logistique bas carbone?
Alors, les atouts sont nombreux. Déjà, on a un maillage quand même absolument fantastique, que ce soit en voie fluviale ou en ferroviaire. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pour nous. Donc il faut qu'on travaille sur ces atouts-là pour continuer de les développer. Et si on fait un focus sur l'axe Seine, c'est vraiment d'avoir d'un seul tenant un corridor vert, qu'on appelle nous Interland aussi. Hein. Nous, on dit qu'à Ropaport, c'est le corridor vert de l'axe Seine. Pourquoi? Parce qu'en arrivant au Havre ou même à Rouen, si on parle d'autres types de marchandises, on a la possibilité d'avoir une logistique décarbonée vers le premier centre de consommation français qu'est l'Île-de-France et le deuxième européen. Et ça, c'est grâce à cette interconnexion et ces synergies entre les trois ports et grâce au fleuve qui va permettre de massifier davantage et de décarboner plus rapidement.
Par rapport à l'actualité, est-ce que le conflit au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz a des conséquences sur vos activités chez Aeropaport?
Alors ça a des conséquences plutôt pour les industriels, à cause notamment de l'envolée des prix de certaines matières premières. En termes de trafic, c'est plutôt des conséquences positives. On exporte à nouveau du diesel, ce qu'on avait arrêté de faire depuis de nombreuses années parce que c'était produit ailleurs.
Ouais.
Donc c'est toujours pareil, quand il y a une crise, il y a des gagnants, des perdants. Pour l'industrie, c'est dur et il faut absolument qu'on tienne bon pour garder cette industrie qui se décarbone en plus très rapidement sur l'axe Seine. Et côté flux, on n'est pas très impacté. Le Moyen-Orient, c'est 50 000 conteneurs par an pour Aeropaport. C'est des choses qui peuvent être rattrapées très vite dès que les chaînes logistiques se remettront en route.
Si on revient sur les préoccupations du salon Drive to Zero, on parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, de données, de nouvelles énergies, de véhicules autonomes. Quelles innovations auront selon vous l'impact le plus fort sur les chaînes logistiques au cours des 10 prochaines années?
Donc avant de parler d'automatisation, d'intelligence artificielle, le sujet ça va être la disponibilité du carburant alternatif. Il y a l'électrification, celle-là en France on va y arriver parce que voilà, c'est du nucléaire ou du renouvelable, donc on est déjà zéro carbone. On a des grids suffisamment performants pour absorber cette charge qui va venir en plus. Donc là, je suis assez confiant.
D'accord.
Après, quand on va parler d'autres types de carburants, notamment pour les bateaux, voilà, c'est là où ça va être un peu plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, même si on veut décarboner, les armateurs, par exemple, ont beaucoup de mal à trouver ce carburant de substitution. Il y a des réglementations qui imposent des jalons, donc tout le monde va y travailler pour y arriver. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, le point sur lequel il faut travailler. L'IA peut nous permettre d'avancer plus vite sur l'interconnexion des données, sur l'optimisation. Et l'automatisation, elle va pouvoir être une réponse quelque part aussi à certains métiers qui sont en tension. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des chauffeurs routiers. On a beaucoup de mal à trouver des bargistes ou des bateliers. Parce que les gens ont plus envie de vivre comme vivaient leurs parents, leurs grands-parents, passer deux semaines sur un bateau le long de la Seine. C'est bucolique, mais peut-être qu'ils aspirent à autre chose. C'est là où peut-être l'automatisation aura demain un rôle à jouer pour permettre d'utiliser ces atouts de l'axe Seine, notamment du fleuve, pour la logistique.
Alors ce qu'on aime bien faire ici sur le plateau, auprès de nos experts et de nos invités, c'est leur demander de se projeter un petit peu. Si nous nous retrouverions, Cédric, ici à Drive to Zero en 2035, à quoi pourrait ressembler selon vous une chaîne logistique véritablement décarbonée, performante et résiliente à l'échelle européenne?
Alors c'est un réseau de recharge suffisamment développé pour permettre vraiment à l'électrique de s'imposer également sur la longue distance. Alors là je parle du poids lourd.
Oui.
Ça va être pour des barges, passage notamment par du rétrofit, donc on modifie les motorisations, on n'a pas besoin d'acheter de nouveaux bateaux pour aller vers du bas carbone ou du zéro carbone. Là, encore une fois, on est en train de poser les bases, nous, en tant que gestionnaire d'infrastructure. Et c'est surtout un partage complet des données pour faire en sorte d'éviter les angles morts, les temps perdus, pour être sûr que la chaîne logistique soit la plus fluide possible.
Pour terminer cet entretien, vous travaillez, Cédric, à la croisée des enjeux portuaires européens et environnementaux. Quelle évolution observée ces dernières années vous rend aujourd'hui le plus optimiste concernant l'avenir du transport et de la logistique ?
Je pense que ça a été pas mal critiqué, mais en Europe, on avait raison quand on a lancé le Green Deal. Et on le voit avec d'autres pays, pour ne pas le citer, la Chine, qui a fait ce pari avant nous, sur un temps de prévision plus long. C'est un vecteur de souveraineté énorme, en fait. On a tous les atouts pour le faire. Encore une fois, on a des réseaux qui fonctionnent. On a un savoir-faire. On a de la recherche qui travaille pour aussi. Et donc là, il faut tenir bon malgré les crises. Parce que sans ça, ça risque d'être vraiment difficile dans les années à venir.
Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Radio Immo et Radio Territoria pour nous faire part de votre analyse et de votre expertise sur ces sujets hautement importants. Je rappelle, Cédric Versiglio, que vous êtes directeur des relations internationales de Aropaport. Un grand merci à vous.
Avec grand plaisir. Merci.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.